Club Anna Kofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine, présentée par David Charlet et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro du Club Anna Kofi. Pour le co-présenter, je suis en compagnie de David Charlet. Bonjour David.
Bonjour.
Président de l'Anna Kofi et David, on est à distance, mais c'est pas grave, on est désormais habitués. On a aujourd'hui dans Club Anna Kofi une invitée exceptionnelle, c'est Valéria Formuncan, députée de la Loire 3e circonscription. Bonjour Valéria.
Bonjour.
Alors, je vais indiquer l'ensemble de vos titres, hein, puisque vous êtes membre de la Commission des Finances, également rapporteur de la loi Courtage. Ça va nous aider dans notre troisième partie hein, sur cette fameuse loi Courtage. Et puis, également, vous m'avez dit, présidente de la Commission études assurances. Voilà, merci d'être là, puisqu'on sait qu'évidemment, en cette période, eh bien, le calendrier est chargé. Au sommaire de cette édition, David, comme d'habitude, on va démarrer avec les actus Anna Kofi, hein, qu'est-ce qui se passe au sein de l'association, beaucoup, beaucoup de choses comme d'habitude, les actus métiers et écosystèmes, et puis un focus avec notre invité, ça sera dans la troisième partie, la réforme du courtage. On démarre tout de suite avec les actus d'Anna Kofi.
Club Anna Kofi, l'actualité.
David, l'actualité brûlante, là, c'est dans quelques jours, la semaine prochaine, ça sera un événement, l'Assemblée Générale de l'Anna Kofi, à ne pas oublier, à pointer dans les calendriers.
Oui, il faut que nos membres n'oublient pas ça, hein, le 5 mai, alors évidemment c'est en digital, ils viendront voter en ligne et entendre les débats en ligne, on n'a pas le choix, mais voilà, 5 mai, il faut venir, on a plutôt des ordres du jour classiques, il n'y a pas vraiment d'Assemblée Générale extraordinaire, ceci dit, on votera la création de l'Anna Kofi Courtage qui aura vocation justement dans le cadre de la réforme du courtage à gérer notre représentation et puis l'action sur nos membres. On aura aussi la première Assemblée Générale de l'Anna Kofi syndicat. Voilà, donc il y a quelques quand même sujets stratégiques pour l'Anna Kofi, même si dans l'ensemble ce sont plutôt des ordres du jour à part ça qui sont très classiques, mais il faut venir voter, puis là c'est d'autant plus simple que c'est à distance, il suffit de suivre le petit chemin qu'on leur a envoyé en ligne à nos membres.
Et voilà, pas d'excuses pour ne pas voter effectivement. Les travaux sur l'ISR avec la Direction Générale du Trésor, deuxième thème.
Oui, là c'est on a été invité à donner notre avis sur la réforme du label ISR et à s'impliquer là-dedans. Donc ça c'est vraiment de l'actualité très 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 fraîche et c'est la première action extérieure, si je puis dire, de notre commission ESG-ISR qu'on avait créée quelques semaines avant, ça tombait très bien. Donc, on va mettre cette commission au travail. Elle a déjà commencé, parce qu'on a déjà eu un échange avec la DGT. Voilà. Donc, on est en plein milieu. Il y a cette réforme qui est en cours et on tiendra toute la place qu'on voudra bien nous y donner et on apportera toutes les réponses qu'on sera capable d'apporter.
On enchaîne avec, comme d'habitude, le Tour de France, les événements à Anna Kofi. Alors, on l'a vu, hein, ça se poursuit, ce Tour de France qui est en digital. Et évidemment, hein, David, il y a de plus en plus d'attentes pour le présentiel. À quand le retour du présentiel ?
Bah là, quand le retour du présentiel, nous rêvions de redémarrer par cette fameuse et historique maison de Marseille à l'Anna Kofi, hein, qui est l'un des trois grands événements bâtis et gérés par l'Anna Kofi chaque année. Ça paraît un petit peu ambitieux de démarrer mi-juin avec cet événement-là. Donc malheureusement, il est probable que pour les événements un peu solides, on renvoie ça à septembre avec l'université d'été. Mais dès qu'on pourra, et pour l'instant, on continue avec ce Tour de France digital qui a trouvé ses marques. Il a même fallu qu'on plafonne sur certaines conférences que l'on donnait sur certaines régions, donc on en va en refaire plusieurs plutôt qu'en avoir une. Il a fallu qu'on plafonne le nombre des participants dans certains cas. Donc, c'est le Tour de France Digital, finalement, a trouvé ses marques et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le présentiel, je vous dis, dès qu'on peut, je pense qu'on va abdiquer sur mi-juin Marseille, mais... S'il y avait une fenêtre de tir dans l'été, on essaierait d'en profiter. Et sinon, ce sera début septembre.
Alors, début septembre, en tout cas, confirmation, université d'été, plutôt région parisienne.
Oui, alors ça ne va pas plaire à ceux qui vous anticipent le fait de gérer la rentrée de leurs enfants. On n'a pas 50 millions de dates et l'événement a toutes les chances de se tenir le 2 septembre.
Bon, bah, écoutez, c'est quoi, c'est le jour de la rentrée ?
C'est ça, c'est le jour... prévu de la rentrée. Je vous rappelle que ça fait 2 ans que tout change tout le temps, hein. Donc, s'il faut, on sera 2 semaines avant la rentrée, hein. Mais oui, c'est ça. Évidemment, compte tenu du concept qu'est l'université d'été, et on ne pouvait pas le mettre plus tard. On aurait pu le mettre un peu avant, mais alors là, on est carrément pendant les vacances, donc on s'est dit que c'était une mauvaise idée. Et puis, les disponibilités de salles font que ça donne ça, sachant qu'en plus, on a entendu la mise en place d'événements dès la semaine d'après. Or, nous, je vous rappelle que ce que l'on dit dans notre université d'été, c'est outre présenter nos travaux et avoir nos invités, c'est aussi lancer tout l'écosystème, tous les événements, mettre en avant tous ceux qui font des choses, dont vous, hein, vous y avez participé l'année dernière, vous voyez bien ce que ça donne. Et donc, bah, si on se met à faire notre université d'été quand les autres ont démarré, leurs événements, on ne peut pas dire qu'on les lance, on peut juste dire qu'on vient les parasiter, ce n'était pas le concept.
Très bien. Bon, en tout cas,
Voilà.
rendez-vous est pris 2 septembre. Ça se met en place, ça se confirme. Rapidement, à l'intérieur, voilà, de l'Anacofi également, nouveau CRM, espace adhérent,
Oui.
ça arrive là également
Ça
très
avance.
rapidement.
Voilà, ça avance. Je le dis à chaque émission, c'est vrai que c'était un travail de longue haleine. Bon, là, on a enfin une date de mise en ligne. Plus que possible, probable. Disons qu'avec la petite marge d'erreur, on peut considérer qu'à fin mai, le CRM sera en ligne enfin.
Et on termine sur une note sur les crypto-monnaies. Pourquoi cette note, David?
Alors, on ne termine pas tout à fait parce qu'après, je dirai un mot de l'étude sur Covid qu'on a faite, puisqu'on a sa dernière version qui va sortir.
Ah oui.
Pourquoi cette note? Pour une raison très simple. On a énormément d'adhérents, énormément. De plus en plus d'adhérents, et en tout cas toutes les semaines au moins quelques-uns, qui nous demandent ce qu'ils ont le droit de faire sur les crypto-monnaies. C'est pas tout à fait. La question n'est pas les crypto-monnaies, est-ce qu'il faut que j'y aille, est-ce qu'il faut pas que j'y aille, est-ce qu'il faut que j'y amène mes clients. Hein, ça, d'une certaine manière, c'est leur job que d'essayer de comprendre. Donc nous, par contre, ce qu'on voulait, c'est fournir des guidelines. La question qui revenait le plus souvent, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire? À partir de quand je suis un peu. Sorti des statuts qui sont les miens et comment ça s'organise tout ça. Voilà. Donc on a décidé, devant la volumétrie de ces questions qui arrivaient par le service juridique, qui arrivaient sur certains élus qui s'occupent de tout ce qui est un peu tech et un peu moderne chez nous, qui prenaient vraiment beaucoup de temps pour répondre, on dit stop, on va faire une note courte. La vocation, c'est qu'elle fasse pas plus de 5 pages. Donc elle fera pas plus de 5 pages. Et elle explique ce que vous pouvez faire dans les statuts qui sont les vôtres, quels sont les statuts. Dédié aux gens qui travaillent sur tout ce qui est crypto, les différences de crypto actifs qui peuvent être recommandées, mais sans rentrer trop dans le détail. Et puis, elle renverra aussi à un certain nombre d'études qui existent déjà, parce que ce n'est pas la peine de refaire ce qui a été très bien fait par d'autres, pour ceux qui ont envie de se bâtir une culture là-dessus. Donc, cette note est quasiment terminée. Le temps qu'on mette en boîte cette émission, il est assez probable qu'elle ait fait son tour de validation et que la semaine prochaine, elle soit à disposition des membres.
Ouais,
Voilà.
on va peut-être demander une réaction, tiens, à notre députée Valéria Farmentian, qui connaît aussi bien ces sujets, hein. C'est vrai que la crypto-monnaie, ça fait partie de l'épargne des Français. Alors, peut-être pas tous, hein, peut-être les plus geeks d'entre eux, mais en tout cas, on sent qu'il y a une vraie effervescence et que, en tout cas, les aficionados sont vraiment conquis et même assez évangélisateurs. Quel est votre point de vue là sur ce sujet qui interroge aussi les États, hein, sur une monnaie comme ça en dehors des systèmes traditionnels?
Tout à fait. Alors, je ne saurais que vous recommander un excellent rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques que j'ai co-signé pour la vulgarisation et comprendre la technologie et comprendre les enjeux des cryptos. Ensuite, effectivement, c'est un produit innovant. Ce n'est pas vraiment de la monnaie, contrairement au nom qu'on lui porte. Et donc, il y a un certain nombre de régulations qui avaient été mises en place à l'occasion de la loi Pacte, qui avait embarqué pas mal de choses qui ont intéressé, j'imagine, Anacofi et ses membres. Mais en tout cas, c'est un moyen, d'une part, aujourd'hui, de rendre la place de Paris plus attractive et donc développer la technologie pour la maîtriser. Sinon, on la subira en venant des États-Unis ou d'autres coins du monde. Et d'autre part, la régulation est assez bien faite aujourd'hui en France entre la souplesse et l'encadrement, ce qui permet de donner confiance à nos investisseurs, donc aux Français, pour qu'ils puissent s'essayer dans la mesure où ils seraient bien accompagnés et des informations sont disponibles aujourd'hui auprès des régulateurs, à CPR comme à l'AMF, pour pouvoir justement ne pas se tromper et faire de bons choix.
Voilà, donc la note, hein, c'est vrai qu'elle a déjà presque 3 ans, cette note, mais elle est très claire à retrouver effectivement sur Internet avec la compréhension de la blockchain et les enjeux de ces nouvelles technologies. David, effectivement, le dernier sujet, on en avait un petit peu parlé le mois dernier, c'est également la note hein, sur l'impact de cette pandémie sur le moral des CGP.
Oui, l'enquête, alors on est allé un petit peu au-delà du moral des CGP, puisque là, on peut quand même demander quelques effets concrets ressentis. On la rendra publique la semaine prochaine, donc on va encore la garder. Vous avez vu que sur les réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent, on lâche 2-3 informations sur ce qu'il y a dedans. Donc là, on est en train de finir l'habillage de l'étude, de l'enquête, mais elle est faite. Et il y a quelques éléments marquants dont on peut quand même parler 2 secondes. Le premier, c'est que... Alors en fait, je vous rappelle qu'on avait fait une enquête en septembre et on a refait une enquête en avril. Ce qui fait qu'on peut comparer ce qui avait été des perceptions plein milieu de cette crise Covid l'année dernière et ce qui s'est vraiment passé et comment ils anticipent cette année dans laquelle il y a toujours le Covid. Ce qui est intéressant, c'est, je vais prendre 2 points. Le premier point, c'est business. Business, l'année dernière, 50% de nos membres anticipaient que malgré la crise Covid, ils feraient une année 2020 qui serait aussi bonne, voire meilleure. On est à 51%. Mmh. Bon, voilà. On avait 7% qui disaient « ça ne va pas bien », mais vraiment pas bien. Je suis à la limite de fermer. On avait 20% en difficulté quand on regardait les chutes qu'ils anticipaient pour l'année. Quand on regarde, quand on leur pose la question « qu'est-ce qui s'est passé en vérité ?» Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on obtient. On obtient qu'on est au-dessus de 60%, un peu au-dessus de 60%, pas beaucoup, un tout petit peu, qui disent « finalement, l'année était aussi bonne, voire meilleure ». On est toujours avec ces à peu près 7% qui ça a été un carnage et toujours à peu près ce 20% qui dit ça a franchement été difficile. Voilà. Voilà ce que l'on a. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a posé une question complémentaire, c'est d'accord, mais alors est-ce que vous anticipez d'arrêter ? Et on avait aussi posé la question l'année dernière, anticiper d'arrêter, de fermer, ils sont moins nombreux. L'année dernière, ils étaient quasiment collés à ceux en difficulté, c'était quasiment 7% dans les 2 ans. Hein. La question, c'était dans les 2 ans. Là, aujourd'hui, on est plus près des 5%. En revanche, on retrouve 7% qui disent « je ne vais pas fermer, mais je vais céder ». Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'aussi intéressant, parce que les deux cumulés, ça veut quand même dire que cette crise a eu un impact psychologique sur un certain nombre d'entrepreneurs. Certains disent c'est trop dur, je ne vais pas bien. J'en ai plus qui disent finalement ça allait pas mal, mais j'en ai aussi un certain nombre qui disent il est peut-être temps de vendre, je ne vais pas rester comme ça ad vitam aeternam dans cette bataille. Le deuxième point qui nous intéresse beaucoup quand on parle d'organisation d'événements, c'est quand on leur demande s'ils ont envie de suivre des formations à distance ou en présentiel et s'ils ont envie de venir à des événements en présentiel ou à distance. Vous voyez bien pourquoi je dis ça, c'est qu'on est tous en train de se demander comment on redémarre derrière. Et est-ce que les médias, les groupes d'événementiel créent des événements ou pas ? Est-ce que nous, on déploie de la formation présentielle Tour de France, pas Tour de France ? Bon. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année dernière, en pleine crise, il n'y avait plus que 20% des gens qui disaient « j'aimerais bien venir en formation présentielle, je veux de la formation présentielle ». Là, on est remonté à 27. Mais je vous rappelle l'avant-Covid. L'avant-Covid, c'est 45. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui commencent à en avoir marre, qui ont envie de revoir des humains, de retourner dans des formations présentielles. Mais on est extrêmement loin, malgré tout, des niveaux que l'on avait avant. Si on regarde, par contre, la participation aux événements, on est quasiment pareil. On est à 60, 63. On était à peu près à 60 qui disaient « moi, je veux bien faire tout type d'événement et 20, je veux vraiment que du présentiel, mais les autres, j'irai où c'est intéressant d'aller. » Et là, par contre, on n'a pas tellement bougé. On a un petit peu progressé, mais c'est 2-3% de plus. Donc voilà. Voilà quelques informations. On en a pas mal d'autres. On a 24 pages d'études.
Enfin, à retrouver très prochainement. Et effectivement, on a des petits filtres comme ça sur Twitter. On apprend que oui, 6 sur 10, c'est le chiffre à retenir. Hein. Finalement, on fait mieux que prévu. Voilà, c'est mieux qu'anticipé. Et c'est tant mieux. On encourage les CGP qui continuent à être au contact, on le sait, chaque jour de leurs clients. Voilà pour les actus spéciales Anacofi. Tout de suite, les actus métiers.
Club Anacofi, l'actualité.
On enchaîne, David, avec les actualités métiers. Alors, on va parler bien évidemment de la réforme du courtage avec notre invité spécial dans quelques instants. On voit qu'on poursuit les consultations, les études hein, sur les rémunérations en ce moment. Expliquez-nous.
Oui, on a beau... On a beau dire qu'il y a des moments où, quand dans une période de crise, il ne faut peut-être pas tout soulever et repartir, remettre en question tous les modèles, ce n'est pas grave, ça continue. Bon, ceci dit, on le savait, donc on travaille. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études et d'interrogations autour des modèles économiques. On voit qu'on a encore reçu des feuilles de route de la Commission européenne ou des documents de l'EIOPA, donc le régulateur de l'assurance au niveau européen. Qui s'interroge sur plein de sujets ou qui explique ce que va être la politique dans les mois et les années à venir au niveau bruxellois. Et évidemment, on retrouve à l'intérieur de ça tous les sujets rémunération de nos métiers au sens très large, transparence bien sûr. On a du coup, ben, ça va déjà il y a un mois, je vous disais, on a beaucoup d'études sur le sujet en cours, là il y en a encore plus. Donc ça continue et on essaye d'avancer. D'ici un mois environ, nous aurons, je pense, terminé un gros mois. Mais d'ici un gros mois, nous aurons terminé une vraie étude de place faite entre plusieurs acteurs français et pas que, histoire de pouvoir faire une vraie analyse enfin de ces modèles et pas être dans le, comment dire, on va appeler ça le fantasme pour
Oui, bien
certains.
sûr. On sait que c'est mouvant en ce moment, rémunération, honoraire, voilà, c'est en train d'évoluer.
Oui. Oui, mais clairement, et sans donner les résultats de toutes les études qu'on fait et qu'on fait de façon parfaitement indépendante, et je le rappelle, moi je suis neutre, à la base j'étais plutôt un CGP sur honoraire. Donc, il est absolument indéniable que vous ne pouvez pas tenir un système de conseil de l'ensemble de la population par un système d'honoraire. Toute personne qui dit le contraire est un menteur. Et tout ce que l'on a déjà fait comme pré-étude le montre. Donc on peut faire un très bon système, mais il n'est pas pour l'ensemble de la population. Voilà, et donc eh ben, il faut trouver un chemin entre avoir quelque chose de correct et une rémunération qui soit légitime, et de l'autre côté, tout simplement, disons-le, ne pas conseiller la population et la laisser se démerder. Et quand une population se démerde, vous ne pouvez pas espérer que ça se passe bien.
C'est dit. Des travaux sur les successions et donations également.
Là, je vais peut-être laisser Madame la députée s'exprimer là-dessus.
On vous écoute,
Alors,
Maria Formosan.
je vais rebondir déjà sur le débat précédent. En effet, le sujet des honoraires et des commissions, c'est un sujet qui est évoqué depuis très très longtemps par la Commission européenne. C'est un débat qui fait rage aussi en France. Maintenant, effectivement, au-delà de protéger le consommateur final, il faut aussi préserver son droit. Et pour préserver son droit, bah, il faut éviter de chasser les professionnels par l'honoraire vers les populations qui peuvent à la limite se le permettre. Et donc c'est vrai que c'est un débat qui est très complexe et David, vous avez absolument raison, ce n'est pas forcément uniforme et pour tout le monde. Et donc il faut pouvoir défendre aussi la position française auprès de la Commission européenne. En ce qui concerne les successions, les donations, mais aussi l'épargne plus généralement des Français. Là aussi, le débat devient extrêmement politique. Chaque bord politique a son opinion sur le sujet. Toutefois, je pense que pour commencer et pour inciter les Français à faire circuler leur épargne, qu'il s'agisse de le faire circuler entre les générations ou qu'il s'agisse de le faire circuler dans l'investissement, dans la consommation, il faut tout d'abord regagner la confiance des Français. Et la confiance des Français, elle passe par plusieurs choses. D'une, la stabilité fiscale, ou en tout cas, une lisibilité très claire à moyen terme de la fiscalité qui leur sera appliquée, qu'il s'agisse du revenu ou des successions ou des transmissions, quelles qu'elles soient. On sait qu'on rentre dans une période préélectorale. C'est une période où même les arbitrages sont compliqués. Je me souviens du métier que j'ai fait avant d'être parlementaire. Certains clients sont extrêmement réticents à bouger les lignes de leur patrimoine. Donc, à partir de ce moment-là, c'est mon rôle, notre rôle de politique, que de les rassurer. Ensuite, leur donner de la lisibilité, de la visibilité quant à leur possibilité de consommation. Plus tôt pourra-t-on mettre en œuvre ou en place un calendrier de ouverture, de possibilité de voyager, de possibilité d'accéder à des loisirs, plus on aura aussi des Français qui seront plus enclins à consommer et aussi
Bien sûr.
investir. Et puis il y a aussi les moyens techniques qui ont été mises en place par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, les moyens qui permettent d'injecter l'épargne ou dans l'économie réelle et donc pouvoir accompagner les entreprises qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Donc, à partir de ce moment-là, on a des outils. Maintenant, il faut que collectivement, les professionnels comme les politiques en fassent le nécessaire pour rassurer nos concitoyens et qu'on les amène à non seulement ouvrir les yeux sur l'épargne, mais aussi peut-être faire circuler un peu plus les liquidités qui se sont accumulées par manque de loisirs, manque de consommation de loisirs.
Bien sûr.
Je vais pas apprendre au membres d'un ACOFI leur métier, mais il y a effectivement ceux qui est investi et ceux qui dorment sur des livrets et sur les comptes courants. Et c'est dommage parce que ça pourrait servir énormément à l'économie en général.
Oui, après on comprend aussi que nos concitoyens sont un petit peu frileux en ce moment. Bon, il y a pas, vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment matière à consommer, même si on a l'impression et on a envie évidemment que ça s'ouvre dans les prochaines semaines. Une question cependant, on a vu justement à la fin du deuxième, enfin du premier confinement, qu'il y avait eu pratiquement un choc de consommation et qu'on était avide, eh bien, de reprendre nos habitudes. Est-ce que vous pensez qu'on aura le même effet d'ici quelques semaines?
En tout cas, le ministère de l'économie table sur une reprise, une reprise forte. Maintenant, il faut qu'elle soit durable. C'est surtout ça qui est important. Parce que s'il y a un regain de circulation du virus en automne prochain, on fera à nouveau une activité en dents de scie. Donc, l'intérêt, en fait, et c'est pour ça qu'on a simultanément les aides et le plan de relance. L'intérêt, c'est de pouvoir soutenir ceux qui ont encore besoin d'être soutenus, lancer ceux qui peuvent travailler sur du moyen et du long terme. Globalement, le monde économique a transformé ses modèles, ses business models pour pouvoir justement être plus agile vis-à-vis de la crise sanitaire, mais pas que, aussi en verdissant les modes de production, en travaillant sur la digitalisation et donc pour pouvoir travailler aussi plus facilement à distance, mais tous les métiers ne sont pas possibles à distance. Le restaurateur ne peut pas faire tout à distance. Mais l'intérêt, en fait, de tout ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, c'est que la reprise soit durable.
D'accord,
Maintenant,
reprise
le
durable.
virus, il est capricieux et ça, il est pas, on n'arrive encore pas à le maîtriser, celui-là.
Bon, on va croiser les doigts effectivement pour que la vaccination fasse son effet comme déjà dans d'autres pays et qu'on n'ait pas un nouveau stop and go. David, on enchaîne avec alors des acronymes LCBFT à la CPR, on traduit.
Lutte contre le blanchiment.
Et le financement du terrorisme, d'accord.
Oui, voilà. Alors, le mois dernier, on a vu une surprise avec l'AMF, si je puis dire. Bonne surprise, c'est-à-dire des prises de position ou des mises en place de services et d'actions. Bon, ben là, c'est ce mois-ci, c'est la CPR. La CPR a créé une cellule qui est ouverte à nos adhérents. On nous a demandé de diffuser les coordonnées de cette cellule d'accompagnement qui a l'air d'être qui est connecté au service du contrôle, mais donc d'accompagnement. Donc c'est intéressant, on a diffusé l'information, c'est tout frais, c'est la première fois qu'on les voit faire ça. Donc faut le dire, voilà. Ce type de cellule était plutôt l'apanage de l'AMF. Ben voilà, on en a une qui vient de se créer la CPR et on vient de diffuser l'information à nos membres qu'ils aillent regarder dans leur spam s'ils ne l'ont pas. Ils ont toutes les coordonnées de toute une équipe à la CPR s'ils en ont besoin. Voilà, c'est
Très
vraiment
bien.
de la courte actualité, mais intéressante.
Marne et Finance, la suite.
Ouais, suite, on est vraiment sur ce dossier qui est lui par contre suivi par l'AMF. C'est tous ces investissements qui avaient été faits dans une société qui s'appelait Biocébon. Voilà, ce sont les deux noms qu'on peut avoir en mémoire et on a reçu un courrier de l'AMF qui nous invitait à inviter nos membres à se doter des experts dont ils. J'estimerais nécessaire de se doter pour pouvoir répondre à leurs clients. C'est pas vraiment une réponse qui nous convient parce qu'on ne sait pas trop bien quoi en faire, mais voilà, donc le dossier continue et il y a des propositions qui circulent et on surveille ce dossier. C'est surtout ça que je veux faire passer comme message à nos membres. Hein. Ça fait des années qu'on surveille ce truc et depuis que bah, ça ne va pas très bien, on est derrière. Il y a des informations qui sont disponibles sur notre site. On essaye de mettre tout ce qu'on a de frais sur notre site. Et ce qu'il n'y a pas sur notre site, globalement, c'est qu'on ne l'a pas. Donc, c'est pas la peine d'appeler 50 millions de fois. Voilà, on réfléchit et collectivement avec toutes les associations à voir ce qu'on fait de ce document que l'AMF nous a envoyé après, à quelle suite on lui donne, parce que c'est, on ne sait pas trop bien comment on s'en sert pour rajouter quelque chose à dire à nos membres.
Eh oui, on rappelle que la société a été, Biocébon, a été mise en redressement judiciaire, reprise par Carrefour, mais a laissé sur le carreau pas moins de près de 2850 petits porteurs pour un montant de 120 millions d'euros. Évidemment, hein, quand on a des clients parmi eux, c'est normal aussi qu'ils s'inquiètent et qu'ils demandent des informations.
Il y a eu des propositions de réorganisation et en fait, c'est là-dessus qu'il y a aussi un sujet. C'est que nous, nos adhérents, nous appellent en tant que conseillers en disant « Je fais quoi face à ces propositions qui ont été faites? Je recommande quoi ?» Et voilà. Et là, vous avez un deuxième sujet en dehors du problème économique et de ce qui a emmené cette opération au tapis, quasiment. Il y a des conseillers qui disent qu'est-ce qu'il faut que je recommande. Voilà. Et c'est là en fait que on en est là aujourd'hui. On en est à cette étape-là avec un échange avec l'AMF.
Oui. Un commentaire. Je ne sais pas si vous connaissez le dossier, Madame la députée. Alors c'est pas, on rappelle, hein, c'est pas une arnaque. Hein, c'est tout simplement, bah voilà, la crise qui a surgi pour cette société. Le problème, c'est que c'était un placement annoncé comme capital garanti, et évidemment, c'est les murs de boutique là qui n'ont pas porté tous leurs effets.
Alors, non, je maîtrise pas très bien le dossier et je me garderai bien de faire des commentaires sur un dossier aussi épineux qui est en cours avec les clients de certains CGP qui se retrouvent aujourd'hui sans forcément de réponse très claire.
D'accord. Par extension, on a vu, on en a parlé déjà dans le Club Anacofi qui avait notamment durant ces confinements où tout le monde se retrouve un peu chez soi, où on traîne beaucoup aussi sur Internet, il y avait beaucoup d'appels à divers placements avec des pourcentages des revenus très très intéressants et certains malheureusement nos concitoyens ont cédé à ces sirènes. Quel est le conseil, la recommandation là, qu'on peut faire pour ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire les CGP vis-à-vis leurs clients?
Qu'est-ce que je te dis, pas le faire. Non, mais alors, il faut voir que ces produits dits atypiques ont diminué en volumétrie dans la distribution classique et la recommandation classique via les CGP. Pour une raison très simple, c'est qu'à peu près toutes les typologies d'actifs dans lesquels on peut investir ont été classifiées dans une régulation en France. Donc, ça s'est énormément réduit. Évidemment, si vous voyez un conseiller agréé qui vous propose un produit pas agréé, il faut quand même que vous ouvriez les yeux quand vous êtes client. Et quand vous êtes CGP, il faut vraiment réfléchir à le faire et regarder ce que vous avez devant vous. Mais ça a vraiment fondu, ça. Et quand je dis fondu, c'est quasiment disparu. Quand on parle des fois, je vois apparaître à la Anacofi, on voit apparaître des noms de trucs, on essaye de regarder quelle est la volumétrie de ce truc, et quasiment rien. Par contre, tu as trouvé un ou deux adhérents qui, eux, en distribuent pas mal, et ça, là, du coup, ça interroge. Par contre, ce que l'on a beaucoup depuis le début de la crise, ce sont des usurpations. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui sont distribués par des gens qui, officiellement, ont des habilitations, sauf qu'ils n'ont pas les habilitations, voire ils utilisent le nom d'un autre. Et ça, c'est le cœur du sujet que l'on a depuis 2 ans en termes de problèmes créés sur le marché, si ce n'est que nous, on n'y peut pas grand-chose. C'est-à-dire que nous, tout ce qu'on peut, c'est constater qu'un client s'est fait vendre au nom d'un confrère qui, en fait, n'était pas le confrère, une solution qui est une solution qui est une escroquerie pure et simple. Voilà, et c'est ça que l'on a. Alors, je ne l'ai pas remis dans l'actualité, je n'ai pas prévu de le mettre dans l'actualité ce mois-ci. Pourquoi? Parce que sur un mois, là, on a l'air d'en avoir identifié moins que d'habitude. Doucement, je n'ai pas dit que ça s'était vraiment calmé. Un mois, c'est court. Hein. J'ai quand même vu quelques alertes à CPR ou autres. Mais j'ai plutôt moins vu, mais ce sujet reste d'actualité.
Parfait.
Si je puis me permettre de réagir,
bien sûr.
Moi, je vous remercie. Effectivement, la cyber et les escroqueries numériques se multiplient depuis des années. À l'aune du confinement, du premier confinement et de la crise sanitaire, ça s'est multiplié. Nous, les parlementaires, on s'est énormément investis dans la chasse, mais pas uniquement aux faux placements, hein, aussi aux faux médicaments, aux faux masques et ainsi de suite. Des vrais faux profils aussi, et ça, là-dessus, David Charlet a absolument raison. Donc, prudence, vigilance. Je pense qu'on est tous responsables, donc on peut tous avertir nos concitoyens, nos clients, du potentiel de risque qu'ils supportent, leur rappeler aussi que la cyber, c'est extrêmement important. Donc, on change les mots de passe, on vérifie à qui on donne les informations. Ça reste, l'hygiène numérique reste un sujet qui est encore pas tout à fait dans toutes les têtes. Donc, les professionnels étant sensibles, autant qu'ils diffusent au maximum l'information auprès de nos concitoyens.
On enchaîne rapidement, David, parce qu'on a notre débat sur la réforme du courtage à poursuivre. Bénéficiaire effectif, précision du nouveau sur le registre.
Ça va être très rapide, très très rapide. Tout professionnel qui travaille sur un dossier d'entreprise et qui est rattaché à TRACFIN, enfin, aux règles de lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, etc., etc., est tenu d'identifier les bénéficiaires effectifs des entreprises. Alors, il y a du neuf, très très frais, c'est que pratiquement au jour où on se parle, il y a un jour, le registre est censé avoir été fini d'implémenter. Donc, en gros, vous avez aujourd'hui un registre des bénéficiaires effectifs que tout professionnel doit consulter quand il a une entreprise client, et ce registre serait à jour. Et du coup, il y a un certain nombre d'informations et de formations délivrées par l'INPI ces jours-ci, donc ces semaines, hein, et auxquelles vous pouvez avoir accès. Regardez ça, parce que nous, on constate à l'Anacofi que beaucoup de CGP ou de conseils en finance d'entreprise n'ont pas vraiment intégré ça ou n'ont pas tout bien compris. Regardez, et là aussi peut-être qu'on se permettra soit de faire une note à Anacofi, soit de relayer ce que l'INPI nous a promis, c'est-à-dire que l'INPI nous a promis une note justement de synthèse de ce qu'ils diffusent actuellement dans les formations et les conférences qu'ils font. Mais c'est vraiment hyper actualité. Et puis, on nous dit que depuis quelques jours, enfin, le registre est fini. Pour ceux qui disaient le registre n'est pas complet, officiellement maintenant, il l'est.
Très bien, allez, dernière partie de notre émission, tout de suite, l'invité et la réforme du courtage.
Club Anacofi, l'invité.
On poursuit le débat tout de suite avec Valéria Formican, la députée de la Loire de la 3e circonscription, membre de la commission des finances, rapporteur de la loi courtage, et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Cette loi courtage, est-ce qu'on peut en préciser rapidement les contours, hein, puisqu'on aboutit pratiquement après, je crois, 2 ans de travaux. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite. À quoi ça correspond et pourquoi elle devait rentrer en vigueur?
Alors, très rapidement, donc il s'agit d'un projet effectivement qui date depuis plus de 2 ans maintenant et qui a été mis en place dans le travail entre le ministère de l'économie, on va dire, et les professionnels suite à la multiplication des réglementations, notamment les réglementations européenne qui devenait de plus en plus lourde et complexe à l'égard des courtiers. Tout ça, encore une fois, dans le but de protéger le consommateur. Donc, c'est un texte qui avait été inscrit tout d'abord par voie d'amendement dans la loi Pacte, qui a été ensuite rejeté par le Conseil constitutionnel pour cavalier législatif. Donc, ce n'est pas la constitutionnalité du texte qui était remise en question, mais son attachement à la loi Pacte. Et donc, par la suite, je me suis permise, parce que, à mes yeux, c'était un texte qui était nécessaire pour créer une voie d'accompagnement des courtiers qui était nécessaire à mettre en œuvre. Et donc, à partir de là, je l'ai repris sous forme de proposition de loi. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé des associations à adhésion obligatoire qui, à mon sens, se trouvent dans un parcours tout à fait logique entre la vérification des conditions d'exercice de métier par ORIAS et le contrôle des pratiques commerciales par l'ACPR. Et cette voie du milieu était absolument importante pour accompagner les professionnels face à la digitalisation, face au changement et face à l'augmentation de la réglementation, et notamment européenne.
David, évidemment, avec l'Anacofi, vous êtes en première ligne là, sur cette réforme du courtage.
Bah oui, 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 on est en première ligne depuis le début, hein, depuis que le projet avait été prévu dans Pacte. Bon, ceci dit, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, c'est le projet au départ part d'une demande ou d'une proposition d'envisager ça faite par une autre association que la nôtre. Nous, ça fait 20 ans qu'on dit qu'un système de type co-régulation, c'est le meilleur système qu'on connaisse au monde. Bon, voilà, mais ceci dit, sur ce cas précis, c'est une autre association qui était venue au moment des préparations de pacte dire à Bercy, ce serait peut-être intelligent de faire ça. Et nous, derrière, bah, avec la culture qui est celle de l'Anacofi, bah, mécaniquement, on ne peut pas porter le message que nous on porte depuis 20 ans et dire derrière, ça ne nous va pas. En plus, on a l'expérience du CIF. Ce que ça ne sera pas, il faut quand même qu'on comprenne bien ça. Et donc, après, derrière, oui, bien sûr, on soutient. On a été énormément attaqués, de façon assez surréaliste d'ailleurs, pour avoir soutenu quelque chose qui correspond pourtant à l'ADN historique de l'Anacofi. Et en plus en n'ayant pas été les demandeurs du texte, mais dès le début on l'a dit, il nous va très bien, il est dans notre ADN. Voilà, pas grand chose à dire de plus. Si on avait pu aller un cran plus loin, c'était bien, mais les textes européens ne le permettent pas. Bon. Donc on fait avec ça et c'est très bien.
Ok, qu'est-ce que ça va changer pratiquement, Madame la députée, là, pour l'ensemble des courtiers qui sont très nombreux hein, en France?
Alors, pour l'ensemble des courtiers, ça va apporter plusieurs choses. D'une part, en termes de calendrier, on va dire, de régulation. Donc, il y a une subordination entre l'adhésion à ces associations, adhésion obligatoire, et l'inscription à Aurias. Nous, à ce moment-là, ça sera un document, enfin en tout cas la preuve d'adhésion sera un document à fournir à Aurias au moment du renouvellement annuel. Ensuite, en soi, ça va apporter plusieurs choses. Anacofi et ses adhérents connaissent bien le principe CIF et David a bien précisé, ça ne sera pas la même régulation que le CIF. Toutefois, ça reste un accompagnement. Donc, les adhérents, les courtiers pourront faire les déclarations nécessaires et les associations vérifier que les adhérents font bien ces déclarations. Il s'agit notamment de l'honorabilité des salariés, il s'agit de la fait de suivre les formations obligatoires donc annuellement et que tous les salariés les aient suivis, mais aussi faire des recommandations sur la qualité de ces formations. Ensuite, le Sénat a inscrit la possibilité de faire des recommandations, et il s'agit bien des recommandations et pas du contrôle sur les pratiques commerciales. Mmh. Et ça va offrir à l'ensemble des professionnels une voie de médiation qui est obligatoire aujourd'hui, mais qui est encore beaucoup trop peu répandu à en croire nos consommateurs. Mmh.
David, un commentaire sur ce qui vient d'être dit? Ça va dans le bon sens en tout cas.
Oh ben, un commentaire, oui, il va être assez simple. Sur l'honorabilité, ce sera pour nous en volumétrie la chose la plus complexe, on le sait, mais bon, on le fait déjà hein, sur le CIF, mais il va falloir augmenter la capacité à traiter la volumétrie. Donc là, je parle d'une association comme l'Anacofi qui est déjà en place.
Oui.
Que ceux qui ont... Donc, pour voir. Pour le reste, tout ça va très bien. Hein, et puis, bon, ça, on sait le faire. Il va juste falloir l'industrialiser un peu plus. Mais voilà. Sur la formation, c'est assez logique. Nous, on faisait déjà le constat. Hein, dès lors que vous n'aviez pas un système de comptage certifié, eh ben, vous n'étiez pas tout à fait sûr que tout le monde suivait. Sur les CIF, on n'a plus aucun problème. Sur le reste, alors qu'on a, nous, déjà des outils de comptage pour nos membres, on voit bien que même chez nos membres, chez certains, ça peut être compliqué d'atteindre les volumes pour l'ensemble de leur équipe. Notamment, ils suivent, grâce à nos outils pour les dirigeants, ça c'est clair, ils ont la possibilité d'inscrire tous leurs salariés pour que l'outil les suive, et peu le font. Donc, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Peut-être qu'ils le font, peut-être qu'ils ne le font pas, peut-être qu'ils respectent ces trucs. Donc là, au moins, on va le régler. Et sur les recommandations sur les pratiques, je rappelle que nos associations fournissent déjà des kits et ils couvrent le courtage. Bon, bah, ça existe déjà. Les juristes font déjà ça depuis des années. On a des kits, donc ça me va très bien. Mmh. Ce que l'on note aussi, c'est que des gens qui rentrent dans nos associations, souvent, n'ont pas d'équipement du tout. C'est qu'ils découvrent totalement ces trucs, découvrent d'ailleurs des contraintes, ce qui fait qu'on va avoir des messages, genre, mais depuis quand on est obligé de faire ça? Bah, depuis toujours.
Ouais.
Dès que je vous dise. Donc, il y a bien un sujet, parce qu'il y a des fois où bah, les bras en tombent. Si on est avec un cabinet de courtage qui arrive, qui a des années d'exercice, on lui donne le kit réglementaire et il dit, mais pourquoi c'est obligé ça? Pourquoi je ne sais pas, mais ça fait longtemps.
Et ça fait longtemps.
Voilà, donc au moins, on va régler ça. Et sur la médiation, obligation légale, mais la médiation, mais toutes les associations ont réglé ça depuis l'année où c'est rentré en vigueur. Et comment est-il possible que des gens ne s'en soient pas occupés? Alors, et en plus, en étant dans une association, donc en payant peu cher, ils l'ont. Mmh. On va pas. Donc voilà, on va régler ces problèmes-là. Mais je rappelle quand même que l'amende, elle est de 15 000 euros si vous n'avez pas de médiateur et qu'un jour vous faites choper.
Bon, bah, ça c'est bon. Dire. Avis à tous les, effectivement, tous les courtiers. Donc rapprochez-vous bah, des associations correspondantes et pour se mettre évidemment en ordre de marche. On termine, il nous reste juste quelques secondes avec Valéria Formontiane. Juste une petite question rapide bah, sur la suite. Est-ce qu'il y a des. Voilà quoi. Alors vous nous avez dit hein, tout à l'heure, en tout cas, que l'objectif c'est, au niveau du pays, c'était évidemment bah, voilà, de provoquer un élan durable hein, dans l'économie. Évidemment, récupérer ce qu'on a pu perdre, soutenir. On sait que le gouvernement est en action. Au-delà, sur quel dossier chaud vous travaillez en ce moment? Je sais que vous êtes spécialiste des assurances dans ce domaine ou dans d'autres. Eh bien, quelles sont les problématiques actuelles là, pour vous, Valéria?
Alors, bah, en quelques mots rapidement, depuis le début de la crise, nous essayons de trouver une solution pérenne en ce qui concerne la couverture des pertes d'exploitation sans dommages, quelque chose qui a fait grand débat au début de la crise sanitaire. Et donc, aujourd'hui, on commence à entrevoir des pistes que sont la réserve pour risque pour les entreprises de taille, de petite taille, on va dire, TPE-PME, et pour les entreprises de taille plus conséquente, comme les ETI ou les grands groupes, j'ai l'espoir de faire rapatrier les captives et créer des captives dans de bonnes conditions, donc des captives d'assurance sur le territoire national. Bruno Le Maire, lors d'une question publique en hémicycle, m'a répondu qu'il était absolument ravi de travailler sur ce sujet et que cela avance. Par ailleurs, nous avons le débat sur solvabilité 2 qui va arriver sur la table de la Commission des finances après la lecture d'un texte qui s'appelle DADU. C'est la voiture balai de tous les textes européens qu'on transpose. Donc sa lecture au Sénat qui va démarrer dans une quinzaine de jours et sinon bah, évidemment le plan de relance et le projet de loi de finances rectificatif qui ne devrait pas tarder à arriver à l'Assemblée nationale.
Parfait, bon, du pain sur la planche donc évidemment, et puis l'aval de Bruno Le Maire, c'est toujours pas mal, c'est, en général ça fait davantage avancer les dossiers. Un grand merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce matin. Donc je rappelle que Valérie Formontiane, vous êtes députée la Loire, 3e circonscription, bon, vous avez travaillé sur pas mal de choses évidemment, loi de courtage, on en a parlé ensemble, membre de la commission des finances évidemment, et puis on sera ravis de vous retrouver justement pour ces sujets, on le voit, hein, techniques mais très importants. Merci également à vous, David Charlet. On se retrouve dès le mois prochain.
C'est ça, on se retrouve le mois prochain.
Voilà, peut-être en studio si les agendas le permettent.
Oh, probablement, ouais. On essaiera. Ouais.
Ah ben voilà, un grand merci également à notre réalisateur Pierre-Yves Falson.
Merci.
Et très bonne journée à tous. À très bientôt pour un nouveau Club Anacofi.
Club Anacofi, l'émission dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine sur Radio Patrimoine.